Alors, Alain Bompard, pouvez-vous nous raconter comment vous en êtes venu à présider l'ASS? C'est votre fils qui vous a fait découvrir ce club. Est-ce que vous aviez envisagé un jour d'être président de club? Et est-ce que l'ASS aurait été votre premier choix sans l'intervention d'Alexandre? Parce qu'il nous semble que votre fils a été un élément moteur dans votre arrivée à la tête de l'ASS.
Oui, d'une certaine façon, oui. Alexandre, qui est donc stéphanois, né à Saint-Étienne, est passionné par les Verts depuis sa plus tendre enfance. J'ai dû passer je ne sais combien d'heures à Geoffroy Guichard, à l'époque de Platini et des siens. Et un jour m'appelle en me disant, écoute papa, j'avais une agence de publicité qui marchait très très bien à Paris, qui était la première agence de partenariat de sponsoring national, et m'appelle en me disant, papa, tu ne serais pas tenté de reprendre la Saint-Étienne, ils sont en faillite et dans 15 jours ou 3 semaines, ils vont déposer le bilan. C'est tentant de jouer cette carte-là. Ça ne m'a pas du tout influencé plus que ça. C'est tout simplement parce que le lendemain, je me suis trouvé au Stade de France, assis à côté de Loison, qui était le patron entre autres l'agence marketing de la Saint-Étienne de l'époque, et qui me dit... J'étais en train de féliciter parce qu'il venait de prendre Marseille et d'autres clubs. Et il me dit, oh, tout va bien, j'ai qu'un problème catastrophique, c'est Saint-Étienne. Alors je dis, ah bon? Et il ajoute, je cherche un couillon pour reprendre ce club, c'est une catastrophe, sinon dans quelques jours on dépose le bilan. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, eh ben, écoute, moi j'en connais un couillon. Il m'a dit, donne-moi son téléphone, je l'appelle tout de suite. J'ai dit, il est à côté de toi, je suis d'accord. Voilà, j'ai pris cette décision suite à l'influence de mon cher fils, d'accord. Mais parce qu'il y a eu cette rencontre.
D'accord. Alors si vous deviez dégager votre meilleur souvenir à la présidence de l'ASS, quel serait-il?
Incontestablement, c'est la montée 98-99. Nous avons une équipe qui est moyennement talentueuse, mais tellement solidaire, tellement volontaire, tellement phénoménal, un public qui tout de suite adhère et nous soutient, et ça a été une année, mais de folie furieuse, c'est magnifique. Même lorsqu'aujourd'hui, on évoque très souvent avec des amis les grandes années avec nos Brésiliens, etc., ça restera quand même l'année 98-99, et dans mon bureau, vous remarquerez que c'est l'équipe de 98.
Tout à fait. C'est pas innocent d'avoir donc choisi cette équipe-là parce qu'elle représente quelque chose de fort pour vous. À l'inverse, le pire souvenir de votre présidence à l'ASS?
Bon, je pourrais vous dire les passeports, mais bon, on va pas revenir dessus. Le pire souvenir sera sûrement sportif. C'est le 3-0 qu'on a pris contre Guignon début janvier. On était avant-dernier de deuxième division. Dans des conditions climatiques invraisemblables, de neige, de tempête et tout.
Des pénaltys ratés aussi. Il y a
tout eu. Ce jour-là, je crois qu'on avait touché le fond. Mm-hmm. J'ai réuni les joueurs à la fin de la rencontre. J'ai pris l'entraîneur Antonetti en disant, voilà, tu as ma confiance et à partir de maintenant, on va attaquer un autre parcours. Mm-hmm. Le week-end suivant, alors que nous étions avant-dernier, on jouait contre Lorient. Le match d'après, Le Mans, qui était deuxième, et on n'a plus perdu pendant 15 matchs.
Alors, quels sont les joueurs et les entraîneurs qui vous ont le plus marqué donc durant votre présidence à la Saint-Étienne? Est-ce qu'il y a des noms comme ça qui ressortent?
Les joueurs, je pourrais en citer plein, parce que bon, si vous voulez, de ceux qui sont encore aujourd'hui...
Qui vous ont marqué, peut-être plus que d'autres...
Indiscutablement, le tandem Aloisio et Alex, qui était un tandem de magiciens, ça c'est vrai. Et puis on peut reprendre aussi quelques jeunes du club, les Papsard, les Julien Sablé, les Jérémy Jeannot, tout ça, mais je pourrais tous vous les citer, ils sont tous dans mon cœur. Mais si je devais en sortir deux, c'était ces deux magiciens qui étaient Alex et Aloisio.
Et au niveau des entraîneurs, est-ce que y a des noms qui se dégagent?
Écoutez, moi, j'ai eu d'assez bons entraîneurs. J'en ai eu un exceptionnel, c'était Frédéric Antonetti. Voilà. D'accord. Pour moi, je pense que, même aujourd'hui, puisque je suis quand même à nouveau un peu dans le monde du football, je considère que Fred est certainement un des meilleurs entraîneurs français.
D'accord. Alors, humainement, quel joueur vous a laissé le meilleur souvenir? Donc, par rapport aux qualités footballistiques, donc vous avez ressorti ce fameux duo Alex Aloisio, mais d'un point de vue humain, est-ce qu'il y a un joueur qui...
c'est pas évident de ressortir un nom.
Je pourrais à nouveau vous redire la même chose, mais si je dois en sortir deux, allez, je vous dirais Guillou. Patrick Guillou, avec qui j'ai gardé vraiment des contacts réguliers, avec Potillon, qui était le capitaine de l'époque, qui ont été des garçons qui m'ont accueilli et qui ont été de tout temps, à travers toutes les circonstances, des garçons exceptionnels. Ouais. Alors après, bon, bien sûr, il y a tous les autres, les Jeannot, les machins, mais ces deux-là, c'est un petit peu plus.
Alors, ne pensez-vous pas avec le recul...
Jérôme Alonso aussi, Jérôme Alonso qui était vraiment un type bien.
D'accord. Alors, est-ce que vous ne pensez pas avec le recul ne pas avoir suggéré le succès de l'ASS des années 99 et 2000? Parce que vous l'avez rappelé, donc il y a eu cette saison fabuleuse 98-99, dans la foulée... Une année spectaculaire où on s'est vraiment régalé en tant que supporter. Et bon, c'est ensuite que l'année suivante que ça s'est beaucoup moins bien passé. Est-ce que avec le recul, vous avez des regrets, est-ce que le succès vous est pas monté à la tête ou...
N'importe qui à ma place vous répondrait non. Moi, je vous réponds oui. Oui, le succès m'est monté un peu à la tête, comme il est monté à la tête de tout le monde. Et quand je dis que j'ai été sûrement un meilleur président lorsque je suis parti, parce que là j'étais au sommet de mes compétences, j'ai eu cette période de folie qui nous a tous un peu crisés. Et c'est vrai que dans l'affaire des faux passeports, on ne peut nous imputer qu'une négligence. Il n'y a pas eu de malhonnêteté, même sur Solaire, ça n'a jamais été prouvé. De la négligence. À l'époque, est-ce que vous voulez, on nous voyait déjà en Champions League, Saint-Étienne aussi, par ce public magique, phénoménal, nous portait, et nous a peut-être un peu porté trop, c'est possible. Il faut avoir l'humilité de dire oui, peut-être que j'ai mis un peu les doigts dans la prise entrant en 2000. Ouais.
Alors pourquoi le club a sous votre présidence refusé en juin 2000 de participer à la Coupe Intertoto en sachant ce que pouvait représenter un retour sur la scène européenne pour tous les supporters?
Écoutez, ça a été le premier sujet de discorde entre Robert Nouzaret, Gérard Solaire et moi. Avec Solaire, nous étions convaincus qu'il fallait faire la Coupe Intertoto. Robert Nouzaret nous a recommandé de ne pas le faire. D'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas très longtemps que c'était quelque chose qui se reprochait. Ça a été notre premier sujet de vrai désaccord.
D'accord. Alors, on vient d'évoquer Robert Nouzaret. Là encore, donc, comme vous pouvez vous en douter, il y a quelques questions de supporters à son sujet. Et certains vous demandent si la décision de le virer n'a pas été mal sous-pesée et très vite expédiée. Est-ce que, avec le recul, là encore...
Écoutez, on peut dire cela... j'essaie d'être objectif puisque j'ai du recul maintenant, hein, ça fait quelques années.
Voilà, c'est aussi pour ça qu'on vous interviewe, c'est que bon, maintenant les années ont passé.
Bien sûr, Robert Nouzaret avait de réelles qualités humaines, professionnelles. Je pensais, comme Gérard Solaire, que la première division c'était un petit peu compliqué pour lui. Bien, il y a dans un club, il y a la partie visible et il y a la partie invisible. Sur la partie visible, Robert avait une très bonne image auprès des supporters, indiscutablement. La partie invisible, c'est que c'était un garçon qui était très difficile à gérer. Il y a eu différents sujets de discorde, mais il y en a un de fond, sur lequel, véritablement, je l'avais prévenu. Au début de la saison, la deuxième saison, je lui avais dit, si on restait sur les bases de la saison précédente, qu'on prenne 2-3 gros joueurs pour compléter notre effectif, ce serait une bonne solution. À l'époque, il a souhaité doubler tous les postes. Doubler tous les postes nous a déclenché une masse salariale invraisemblable. Et si vous reprenez l'effectif des garçons qui sont arrivés cette année-là, il n'y en a pratiquement pas le tiers qui ont opéré en première division. Ça a été un sujet de désaccord et de discorde. Ajoutez à cela qu'il y a eu un incident très sérieux entre lui et moi devant les joueurs dans le vestiaire de Strasbourg, à l'issue d'un match perdu, et j'ai pris une décision. Si le match suivant, on jouait contre Rennes, nous avions gagné Rennes avec Gérard Soler qui était sur le banc, eh bien je vous jure qu'on n'en aurait plus parlé. Le problème, c'est qu'on a perdu ce jour-là et ça a déclenché tout le reste.
Alors, lorsqu'on avait interviewé Robert Nouzaret il y a quelques années, sa version, lui, des faits, c'était que quelque part, vous lui aviez fait payer sa médiatisation et que vous lui faisiez peut-être un petit peu de l'ombre médiatiquement et qu'avec Gérard Soler, du coup, bah, voilà, vous aviez pris cette mesure qui était peut-être prématurée vu que la situation sportive de l'époque, rappelons-le, n'était pas non plus alarmante. Qu'est-ce que vous...
Si, dans la mesure où on jouait quand même le haut du tableau, lorsque j'ai pris la décision de me séparer de Robert Nouzaret, je crois qu'on était 13e, quelque chose comme ça. Donc elle était alarmante pour les objectifs qu'on s'était fixés quand même, il faut dire les choses. Maintenant, écoutez...
Peut-être cette querelle d'ego, ce côté médiatisation.
Ça fait une heure que vous êtes face à moi. Si je vous donne l'impression d'avoir un ego phénoménal, alors c'est vraiment que j'ai changé. D'accord. Non, entre Romer Nouzaret et moi, il y avait d'un côté un patron et d'autre côté un entraîneur. Et à un moment donné, quand il y a un désaccord profond entre un patron et un entraîneur, c'est celui qui a mis l'argent dans le club et moi c'était mon argent. Et celui de mes amis. Et c'est avec l'assentiment de mes amis que nous avons pris la décision de nous séparer de Robert Nouzaret. Pas de problème d'ego, je me fous complètement de la gloriole ou de la gloire de Robert Nouzaret.
Alors, dans le foot pro en général et à Saint-Étienne en particulier, est-ce que malgré tout, vous ne pensez pas que les dirigeants ont parfois tendance à virer prématurément les entraîneurs? Ou alors, est-ce que, comme vous venez de le dire, bon, ben voilà, un patron peut être amené à prendre des décisions
Ça peut être le cas. Moi, j'avoue sincèrement que lorsque j'ai récupéré Frédéric Antonetti, même au moment les plus durs de cette période, j'ai toujours dit que j'avais trouvé l'icône idéale pour ce club. Malgré les mauvais résultats, je ne me suis pas séparé de Frédéric Antonetti. Frédéric Antonetti a fait les 3 ans avec moi jusqu'à ce qu'il ramène l'équipe en première division, et ce sont mes successeurs qui l'ont fait partir, pas moi. Hein. Je l'aurais gardé à vie, et dites-vous bien...
Justement, ça a été quoi votre réaction quand vous avez appris que Frédéric Antonetti n'était pas conservé à l'AS Saint-Étienne?
Écoutez, j'ai rencontré Caiazzo il n'y a pas très longtemps, qui est passé à Avignon et qui m'a invité à déjeuner. J'ai accepté son invitation très sympathiquement. Et lui-même a reconnu que c'était son erreur.
D'accord. Alors, quelques questions là encore de supporters par rapport donc au recrutement de Maxime Levitsky. Avec le recul, est-ce que vous ne pensez pas que c'était une erreur de le faire venir alors qu'à l'époque on avait donc Jérôme Alonso, donc on l'a évoqué tout à l'heure, et puis Jérémy Jeannot, donc là-dessus.
Écoutez, c'était aussi le choix de Robert Nouzaret d'avoir un grand gardien et considérer que ce que nous avions n'était pas suffisant pour le niveau de la première division. Donc on a accédé à sa demande. Levitsky n'était pas un mauvais gardien, mais bon, ceci étant, quand on voit le parcours de Jérémy aujourd'hui, on peut se dire qu'on aurait pu attendre un peu.
Quelques mots également sur le Kapanov, qui reste un mystère pour certains supporters stéphanois, donc ce jeune joueur russe.
Ben, vous savez, ça reste un mystère pour moi. Hein. On est allé le voir avec Soler et avec Robert Nouzaret, donc tous les trois impliqués. On est allé le voir jouer 2 fois à Saint-Pétersbourg. C'était un garçon exceptionnel. Il avait marqué 2 buts avec l'équipe de Russie au Stade de France contre la France. Il avait ensuite, au cours des différentes rencontres où nous l'avions visionné, fait preuve d'une performance authentique. Il est arrivé à Saint-Étienne, souvenez-vous, le premier match, je crois que c'était en amical contre l'Ajax, je crois, hein, où il me semble bien, où tout le monde disait « mais c'est Speedy Gonzalez, c'est fou, mais quel joueur !» Donc tout le monde était du même avis. Et puis, un mois plus tard,